Voilà, je suis très heureux de passer la parole au pasteur Marc Pernaud, qui, bien sûr, est pasteur de cette paroisse de l'Oratoire, mais qui est responsable aussi du site Évangile et Liberté, puisque notre publication est actuelle comme ancienne, se trouve récapitulée sur le site que vous pouvez consulter et qui est magnifiquement présenté et remarquablement pratique.
Merci beaucoup. Alors, la question qui nous est proposée était double. La vie éternelle, comment y croire? Alors, je voudrais d'abord aborder la première question que nous proposait donc Laurent Gagnebin, que je remercie beaucoup d'avoir organisé cette journée. Eh bien, comment y croire? Pour moi, personnellement, je suis plutôt scientifique et je suis venu à la foi en Dieu, plutôt en prenant Dieu comme une hypothèse plausible, si vous voulez, de la dynamique d'évolution que nous voyons dans l'univers. Et finalement, croire en une vie après la mort, cela me semble relativement plausible. Effectivement, Dieu est créateur, la vie humaine est un miracle incroyable. Comment des atomes tout bêtes qui auraient pu donner une bûche ou un caillou ont pu s'organiser, après une évolution longue certes, mais prodigieuse, en une somme d'atomes capables de penser, capables d'aimer, capables de rêver un avenir, c'est prodigieux. Eh bien, ce créateur, s'il s'est débrouillé pour, inspirer cette dynamique d'évolution, eh bien, il se débrouillera plus facilement, je crois, pour garder en vie ce trésor d'évolution, ce miracle, cette qualité inimaginable. Et cela, on en fait finalement, si, quand même un petit peu l'expérience, finalement, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, que cette personne perd par exemple un bras ou une jambe, c'est-à-dire sa personne au sens physique est diminuée objectivement. Si elle perd son emploi, sa fortune, elle perd une part de ses moyens d'action et c'est sûrement dommage, on est désolé pour elle. Mais on sent bien à travers l'amour que cette personne ne vaut pas moins, c'est-à-dire que l'infinie richesse, l'infinie valeur de la personne humaine est de l'ordre du spirituel. Cela, c'est quelque chose dont nous faisons l'expérience très facilement, en tout cas dans l'amour dont nous aimons nos proches. Pour ce qui est de nous-mêmes, quand on a un bouton sur le nez, on est tout de suite catastrophé, on a l'impression de ne plus rien valoir. Ou si on perd son travail, on a l'impression de ne plus être grand-chose, ce qui est évidemment faux, pour ceux qui nous aiment. Et donc, moi je crois volontiers, si vous voulez, qu'il y a une vie après la mort. Voilà, j'y crois volontiers. Alors j'en ai, bien sûr, c'est une hypothèse qui me semble plausible, mais voilà, qui me plaît assez. Et je crois que ça nous encourage, en tout cas, à pouvoir aimer encore, non seulement ceux qui nous restent, qui sont à nos côtés, mais aimer tout autant ceux que nous avons perdus. Et finalement, comme le disait un peu Raphaël, oui, que l'amour est plus fort que la mort et que cet amour est récapitulé, gardé par Dieu pour l'éternité, et donc oui, volontiers, que c'est ce lien que nous avons entre personnes sur terre par l'amour, eh bien ces liens sont éternels, et donc nous ne retrouvons pas nos chers disparus dans la vie éternelle, nous restons en lien avec eux pour l'éternité. Bon, ça c'était pour le premier point, mais finalement la deuxième question, la vie éternelle, comment y croire? Eh bien, je dirais, comment y croire? Il faut se dépêcher d'oublier qu'il pourrait y avoir une vie après la mort. Et je crois que ça, c'est fondamental parce que, comme le disait peut-être un peu Vincent, c'est un piège, finalement, de vivre ainsi dans cette perspective, pour cette perspective. Un exemple simplement, si on est généreux avec une personne dans l'idée que ça va être garder pour l'éternité, ou que ça va nous gagner des bons points pour un Dieu qui va compter les bonnes œuvres et les mauvaises, pour nous donner ensuite le ticket d'entrée dans la vie éternelle, c'est épouvantable. À ce moment-là, on aime quelqu'un pour faire son paradis à soi, et c'est l'enfer tout de suite, pour la vie présente, et peut-être pour ceux qu'on essaye d'aider. Et donc il faut oublier finalement qu'il y a une vie après la mort. C'est, je crois, la meilleure façon de vivre la vie éternelle, la vraie vie maintenant. Et souvent dans l'Évangile, on ne parle pas tellement de la vie éternelle, mais de la vie tout court, comme le disait Christine. Et c'est finalement cela l'enjeu, c'est de vivre, oui, la vie éternelle maintenant. Et une des clés, finalement, pour vivre maintenant cette vie éternelle, c'est d'oublier qu'il y en aurait une après, ou alors de faire comme si ça n'existait pas. Je le dirais encore plus pour cette idée de la réincarnation. Moi, je n'y crois absolument pas, là, d'une manière rationnelle, si vous voulez. Ça, à mon avis, ça ne fait aucun sens. Ces sortes de parties gratuites, comme dans les jeux vidéo, ou dans le flipper au coin du bar, si vous voulez, que, poum, tout d'un coup, on a une vie gratuite qui arrive comme ça. Je crois que ça tient pas tellement debout, mais peut-être que c'est vrai après tout. Eh bien, si c'était vrai, il faudrait l'oublier encore plus vite que la vie dans l'au-delà, parce qu'à ce moment-là, la personne humaine, cette vie que nous vivons maintenant, l'instant présent, ben finalement, n'a vraiment plus aucune importance. Et ça disqualifie finalement cette passion que nous avons à vivre maintenant une qualité extraordinaire de la vie présente, la vie humaine présente. Alors le secret, comme le disait, je crois, Raphaël, c'est de vivre aujourd'hui et maintenant la résurrection. Effectivement, dans l'évangile selon Jean très très clairement, dans les lettres de Paul aussi, mais dans les autres évangiles, la résurrection, elle appartient au passé, c'est-à-dire que Paul dit « nous avons été ressuscités en Christ ». Et donc la résurrection, le passage, faut pas que je me trompe, de la mort à la vie, il faut le vivre, cette résurrection, aujourd'hui et maintenant, pour être enfin, oui, vivant maintenant, avant notre mort. Et donc finalement, la question que ça pose, c'est celle de la rencontre de Dieu. Parce que dans les évangiles, cette vie éternelle, cette résurrection, c'est l'œuvre de Dieu, c'est un don de Dieu miraculeux, et c'est présenté comme un miracle, et je crois que c'est fondamental de garder cette idée de miracle. Ce n'est pas par notre méditation, notre intelligence, notre réflexion que nous avons cette vie éternelle, cette qualité d'être incroyable, qui par ailleurs durera, à mon avis, au-delà de la mort biologique, mais c'est une autre affaire. Déjà, cette qualité incroyable de la vie humaine, c'est un don de Dieu. Et donc la vraie question, c'est est-ce que, oui ou non, nous avons été ressuscités? Et cela, ça pose la question de savoir si, oui ou non, Dieu change quelque chose à notre vie. C'est-à-dire s'il y a eu quelque chose qui est de l'ordre du miracle, de l'irruption de Dieu qui fait que nous ne sommes plus le même demain, grâce à la rencontre avec Dieu, que hier. S'il y a eu quelque chose de surnaturel qui nous a changé. Et ça, je crois que c'est une question que nous pouvons nous poser, que nous renvoie l'Évangile, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu, je crois, l'invention de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas tellement de la vie dans l'au-delà. Ils font l'impasse un peu là-dessus. Pas tout à fait, mais un peu, je dirais, globalement. Pourquoi ? Eh bien, ce silence est assourdissant, si vous voulez, parce que c'est pas qu'ils ignoraient cette notion de vie dans l'au-delà, ils étaient en contact avec les Égyptiens qui en faisaient leur spécialité d'une manière particulièrement visible, avec les pyramides, les embaumements, etc. Mais je dirais, pratiquement, toutes les religions sont, à la base, orientées vers cette vie dans l'au-delà comme possible, grâce à la divinité ou je ne sais pas quoi. Les Hébreux ont eu le premier génie, je crois, du monothéisme, d'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu méchant, de diable ou de je ne sais quoi. Il n'y a qu'un Dieu et il est bon, il est source de vie. Et deuxième, désintéressons-nous de la vie dans l'au-delà. La question, c'est aujourd'hui et maintenant de vivre de cette bénédiction de Dieu et d'être à notre tour source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Donc de se laisser ressusciter par Dieu et d'être, grâce à cela, un peu ressuscitant, si vous voulez, de ceux qui nous entourent, avec une notion très collective, je crois, de cette bénédiction, de cette vie qui se perpétue dans le peuple et dans les générations futures pour l'Ancien Testament. Pour l'Évangile, il y a fondamentalement ce corps du Christ, c'est-à-dire de cette idée que c'est ensemble que nous ressuscitons finalement, que nous constituons ce corps du Christ vivant dans ce monde, mais il y a aussi fondamentalement cette divinisation, je crois, de l'homme qui reçoit de Dieu quelque chose qui est de l'ordre d'une qualité d'être infini, par l'amour, pour l'amour, qui fait de lui un peu finalement, je dirais, l'image de Dieu comme le Christ peut l'être. Et je crois que donc, voilà, cette idée de la vie éternelle, comment y croire ? Oui, on peut croire dans la vie de là, l'au-delà, et comment y croire ? En se dépêchant d'oublier cette vie dans l'au-delà et en vivant aujourd'hui et maintenant cette résurrection que Dieu nous donne.
Oui, on tourne autour des mêmes trucs.
Oui,
c'est amusant.